philosophique de la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 20 décembre 1995, deuxième conférence.
Je vous lis simplement. Conception philosophique de la personne. Vous trouverez ça, je vous donne ça, c'est dans le livre sur l'être, la deuxième partie de la deuxième partie, page 706. Alors, je ne fais qu'énumérer, hein, parce que c'est pas ça qui nous intéresse directement, mais c'est ça. De le faire. Comment tous ces philosophes regardent un aspect de la personne. Chacun dit une certaine vérité, mais ils ne vont pas jusqu'à l'aspect métaphysique de la personne. Or, je crois que c'est cela qu'on doit essayer de comprendre. Se définit par la conscience. Descartes. La conscience transcendantale. Kant. La personne, c'est l'idée absolue. Personnalité absolue. C'est l'idée absolue, c'est l'esprit dans toute sa pureté. Hegel. La personnalité, synthèse de soi et du non-soi. La personne est la conscience se rapportant à elle-même dans son rapport à Dieu. Kierkegaard. La personne, c'est le moi pur. Husserl. La personne, unité immédiate, co-vécue. Du vivre par expérience. Schiller. La personne et la vie. C'est-à-dire que la personne réalise la vie dans ce qu'elle a, dans son sommet. Whitehead. La puissance créatrice de l'homme, condition de la personnalité. Bardière. Personne liée au Créateur qui exprime la toute-puissance. Mais Berdiaev, la personne, valeur suprême, chaque cas, philosophe italien, la personne, activité vécue d'auto-création et de communication. C'est l'ordre pur de la personne désigne la vie de Dieu en nous. Nédoncelle. La personne ébauche d'être. Blondel. La personne est la nature, personne et individu. Maritain. La question de l'être de la personne, Heidegger. Personne, structure d'existence. Merleau-Ponty. Synthèse de personnalités successives. La personne s'achève dans une transcendance sans surnaturel. L'homme, tout simplement. La personne, c'est l'homme. Alors, ce que je vais m'arrêter un tout petit peu, parce que ça me semble important pour nous. Donc vous voyez, c'est très curieux, ça va de la conscience, en passant par la vie, et on rejoint l'être. C'est très net qu'au fond, on retrouve chez Merleau-Ponty. désir de fonder la personne sur l'être. Et comme leur métaphysique n'est pas très très forte, ça reste un peu bancal. Mais c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, c'est que au point de départ, c'est la conscience. Et on voit que c'est pas suffisant de définir la personne par la conscience. On pourrait définir la personne aussi par la responsabilité. Ce serait la personne au niveau anthropologique. Ce qui m'intéresse plus, parce que il y a là un effort très net, c'est chez les psychologues. Mais au fond, c'est chez les psychologues qu'on voit le mieux cet effort de considérer la personne un peu comme l'absolu. C'est notre absolu, notre personnalité. Nous formons notre personnalité. Quand vous voyez un petit gosse, un petit enfant dans son berceau, vous le regardez et vous ne dites pas « Oh, quelle belle personnalité !»« Oh, quelle belle personnalité !» Non. Quand vous voyez un homme de 45 ans, vous dites « Ah, ça, c'est une personne. » Dans le langage courant. Vous voyez, la personne, elle est et elle devient. Je crois que c'est ça qu'il faut saisir. Elle est et elle devient. On devient une personne. Et on est une personne. C'est curieux. C'est curieux. C'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant dans la personne. C'est qu'à la fois, la personne est. Et on ne peut pas nier que la personne se fait. Elle se fait, la personne. Elle se réalise tout le temps. Vous avez été électrocuté. On va crier au secours. Voyez que ce que les psychologues ont le mieux saisi, ce n'est pas la personne, mais le devenir de la personne. Il leur manque cette dimension de l'être. Alors, pour compléter cette petite topique rapide, mais elle est intéressante parce que c'est intéressant de faire le ski de printemps, comme on dit en Suisse. C'est pas quand déjà la neige, on peut faire le ski de printemps. Sur les sommets. Et une topique historique doit être toujours le ski philosophique du printemps. On voit jusqu'où on a atteint. Jusqu'où le sommet. C'est ça qui est intéressant dans la personne. C'est vraiment un sommet. Une arête. Alors, disons un mot rapide. Je ne veux pas m'attarder trop. Mais ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Étant donné le rôle de la psychologie aujourd'hui, vous savez bien, constamment, la psychologie prend la place de la philosophie. C'est pour ça que je défends la philosophie, pas contre la psychologie, mais en assumant la psychologie. La psychologie ne peut pas toucher ce qu'il y a de plus fondamental dans la personne humaine. On le verra quand on touchera ces sommets. Le problème de la personne a été le centre de la réflexion de tout un courant de philosophie contemporaine. Il est surtout dire que Freud ait traité le problème de la personne, proprement dit. Ce qui l'intéresse, c'est le domaine du conscient et de l'inconscient. Le conscient n'étant qu'une fonction particulière, et non pas la caractéristique la plus générale du processus psychologique. Alors, l'ouvrage de Charles Baudouin, Découverte de la personne, dédié à Bergson, dont les cours sur la personnalité fut pour l'auteur une décisive initiation, comporte une confrontation assidue de l'enquête psychologique et de la dialectique philosophique. Charles Baudouin estime que l'opposition ne se situe pas entre matière et esprit, et entre le principe d'objectivité de toute science d'une part, et le principe du sujet de la personne humaine d'autre part. C'est cité de lui, ça. Donc c'est vraiment ça. Et ça, c'est intéressant de bien voir, au fond, le problème de l'objectivité, de la subjectivité. Si tu restes très souvent comme ça, les gens l'abordent. Oui. J'ai entendu plus d'une fois cette objection. Thomas d'Aquin nous fait une théologie morale objective. C'est la nature humaine. Depuis quand on montre la personne dans sa subjectivité transcendantale. Il faut donc faire une théologie morale subjective. C'est-à-dire, suivant les situations dans lesquelles on se trouve, la morale de la situation de Sartre. C'est ça aussi. Il est évident la morale implique l'aspect subjectif de la responsabilité. Vous ne pouvez pas comprendre la responsabilité uniquement au point de vue objectif. On est responsable en face de telle ou telle circonstance à l'égard de telle ou telle chose. Mais l'erreur, c'est d'opposer objectivité et subjectivité. La distinction objectivité et subjectivité est une distinction critique dans toutes mes connaissances, dans toutes mes activités. Il y a quelque chose d'objectif et quelque chose de subjectif. On ne peut pas nier. Il y a des personnes qui ont un sens extraordinaire du milieu dans lequel ils sont. Et ils s'adaptent d'une manière telle qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils disent à telle personne et leur discours à une autre personne. C'est totalement différent. La subjectivité est tellement forte que l'objectivité disparaît. Puis il y a d'autres personnes intransigeantes. C'est comme ça la vérité. La loi, ça doit s'appliquer comme ça. Il faut vous couper la tête. Vous avez commis l'adultère, on doit vous couper la tête, selon ce qui nous est montré dans l'Évangile. Ce qui applique la loi. Jésus n'est pas ça. Et Jésus, pourtant, n'est pas dans la subjectivité transcendantale. Alors, c'est un problème philosophique extrêmement intéressant.
Les objets métalliques de la
pensée. Qu'est-ce
qu'il y a ? Est-ce que vous avez des objets métalliques de
la pensée ? Non, tant mieux, mais là. La sensibilité. C'est à cause de ça que ça avait ce chahut effrayant. On va voir. Dites au situation, n'est-ce pas? Alors, subjectivité et objectivité existent, c'est bien évident, dans l'analyse que je fais de la connaissance. Mais ce n'est pas des principes. C'est une analyse que je fais. L'objectivité est principe, pas la subjectivité. Dans la connaissance intellectuelle, dans la connaissance scientifique, dans la connaissance scientifique, vous exposez la découverte que vous faites. Et vous ne mettez pas « le savant qui a fait cela était très passionné pour ce sujet. » Et donc, il a tout vu à travers sa passion. Non, vous donnez la donnée dite objective. Et peut-être qu'il y avait une subjectivité très grande. Mais l'objectivité n'est pas savant. L'objectivité est un principe de connaissance, pas la subjectivité. La subjectivité est un principe affectif. Je suis de bonne humeur aujourd'hui parce qu'il y a du soleil, mais c'est très subjectif. Alors j'ai un auditoire intelligent. S'il y a un brouillard épais, terrible, alors on est de mauvaise humeur. Et on voit tout le monde dans la subjectivité de la mauvaise humeur. Oui. Quand vous dites, après avoir vu quelqu'un, ce qu'il était de mauvaise humeur, demandez-vous, est-ce que c'est pas vous qui êtes de mauvaise humeur? Parce que ça a peut-être joué, ça. Il y a des gens qui sont tellement sensibles que d'y voir quelqu'un de mauvaise humeur, une gendarme, oh, attention, il y a peut-être un couteau derrière. Alors on fait attention. Vous voyez, c'est pour ça qu'objectivité et subjectivité, c'est passe-partout pour moi. Sauf l'objectivité. Mais la subjectivité, très très délicat. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est pour ça que je le cite. De Charles Baudouin. Quand il dit ceci, c'est cité de lui. Et c'est ça que nous devons essayer de comprendre. Il ne faut pas l'opposition de la matière et de l'esprit entre le principe d'objectivité de toute science d'une part et le principe du sujet de la personne humaine d'autre part. Donc la personne, c'est le principe de subjectivité. C'est très vrai que la vieille scolastique disait que chacun reçoit ad modum recipienti. Ça, c'est la subjectivité. Ad modum recipienti. Selon le mode du récipient. Et vous mettez l'eau dans un verre de cristal. Vous mettez l'eau dans une bouteille ordinaire. L'eau prend la forme du récipient. Alors, on considère que la personne, c'est le récipient. Alors, il y a des personnes de cristal. Oui. Il y a des personnes de non-cristal. On peut dire autre chose. Dans la subjectivité, l'école, tout est... On ne sait plus ce que c'est. Alors, c'est assez délicat de définir pour ça. Ce dernier principe est sujet de la personne humaine. Ce dernier principe est de plus en plus méconnu dans le monde occidental, car sous le nom de science, nous nous sommes fait de l'objectivité une idole, et dans la mesure même, s'est trouvé obnubilé à nos yeux la signification de la personne. Et pourtant, la personne ne serait-elle pas le lieu par excellence où la philosophie pourrait établir avec force ses positions? Intéressant. Et c'est vrai d'une certaine manière. Le philosophe seul peut parler de la personne. Ça, je peux l'affirmer. Le philosophe seul peut parler de la personne en totalité. Le psychologue dit certaines choses, le devenir de la personne, la croissance de la personne, les luttes de la personne. La science mathématique ne dit rien à personne. La logique ne dit rien à personne. La psychologie dit quelque chose, mais le philosophe seul peut essayer de creuser ce qu'est la personne humaine. C'est ce que nous allons faire, non pas en donnant une définition, mais en essayant de préciser. Pour Charles Baudouin, c'est en abordant le problème de la personne que nous franchissons la limite qui sépare la psychologie de la métaphysique. Et l'expérience intime du sacré lui paraît tout près de coïncider avec la découverte de la personne. C'est intéressant comme perspective. Il sent qu'il y a dans la personne comme un mystère, que l'objectivité pure ne pourra jamais saisir. Ça, c'est juste. Alors, si Charles Audier parle moins explicitement de la personne, sa contribution à l'étude de ce problème est cependant importante. Tout d'abord, notons que pour Charles Audier, le problème général de l'évolution psychologique de l'homme est un problème en soi illimité, puisqu'il nous amène aux causes premières et biologiques, et cela nous conduit aux fins dernières et métaphysiques de la destinée humaine, donc de la personne. Charles Audier s'est attaché à étudier sous son aspect fondamental et non pas spirituel, le problème de la genèse et de l'évolution du moi. Et ce problème du moi, c'est le problème de la personne pour lui. Les trois éléments essentiels aux fonctions du moi qu'il découvre et explicite sont la sécurisation, la valorisation et l'autonomie. L'autonomisation. Je crois que c'est assez juste, ça. Les trois sentiments du moi fort. Vous voyez, autrement dit, la personne grandit dans la mesure même où ces trois sentiments du moi, je suis au niveau psychologique, donc je peux parler de sentiments du moi, vont progresser. Je les écris, à partir de là, je vais préciser certaines choses qui me semblent importantes et intéressantes. Et donc, sentiment du moi. Les sentiments du moi. Du moi fort. En réalité, c'est du moi fort. Donc, de la personne. Sécurité. Autonomie, valeur. Alors, il les prend dans leur croissance. Donc, sécurisation. On acquiert une sécurité toujours plus grande. On acquiert une autonomie toujours plus grande. On acquiert une valorisation toujours plus grande. Je complète, parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et discuté avec des psychologues. Des psychanalystes qui trouvaient du reste que c'était très intéressant. La sécurité, puisque c'est une conquête, on se fait son moi fort, on se fait sa personnalité, donc on lutte contre l'ennemi qui est au-dedans et qui est à l'extérieur. La sécurité lutte contre l'angoisse. L'autonomie lutte contre l'aliénation, et la valeur lutte contre la culpabilité. C'est vrai, quand je suis pris par l'angoisse, mon moi diminue. Je sais plus où je suis. Je suis angoissé. Quand je suis pris par l'aliénation, mon moi diminue. Quand je suis pris par la culpabilité, mon moi diminue aussi. Je n'ose plus le montrer. Mais alors, appliquez l'homme et en transposant. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Hein, voyez bien. Alors vous comprenez très bien. Il faut que ces trois sentiments du moi faible, du moi en détresse, feu de détresse, champagne, j'avance plus. Et c'est vrai, on est enlisé dans l'angoisse. Dans l'aliénation, ça va plus, et la culpabilité. Alors, pour bien comprendre que, de fait, je me tâte le pouls, en me tâtant le pouls, si vous êtes suffisamment subtil, vous allez trouver les trois, et les trois, il y en a six. Curieux, ça. Il y en a six. C'est toute la structure psychologique qui est dans vous. Et tâtez-vous le pouls. Bien, avec intelligence. Vous sentirez la dose angoisse, la dose aliénation, la dose de culpabilité. Mais aussi, vous voyez, il y a une opposition entre les deux, il y a une lutte. Aussi la sécurité, l'autonomie. C'est très curieux, parce que l'aliénation, c'est le présent. La sécurité, c'est le futur. Et la valorisation, c'est le passé. Oui, c'est bien l'être dans le temps. Mais il y a quelqu'un qui est angoissé, très angoissé. Ça regarde le futur. On est angoissé par ce qui arrivera demain. La grève vous angoisse. Qu'est-ce qui va arriver demain? C'est sûr, c'est, ça vous angoisse. Si vous avez quelqu'un qui est angoissé, ne parlez pas de ce qui arrivera demain. Vous augmentez l'angoisse. Oh, demain, il fera beau, sans le printemps, mais pas du tout. On est angoissé. Quelqu'un qui est aliéné, présent, est en prison. Sa prison intérieure, on est aliéné. On n'arrive plus à sortir. Il ne faut pas se parler du présent. Oui, une espèce d'intelligence de la situation dans laquelle on est. C'est de fait lié au temps. Futur, présent, passé. Ça, je crois. Oui. Et c'est intéressant de voir que, de fait, nous possédons en nous ces divers sentiments du moi. Mais vous voyez, ce n'est pas ma personne, ça. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est proche d'une certaine conscience psychologique de ma personne. C'est vrai. La conscience psychologique de ma personne implique tout cela. Et je sentirais très bien que quand ça va bien, on dit est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis sur une montée. Et j'aggrave. Ça va. Le sentiment de sécurité augmente. Parce que je suis avec des amis. Quand vous travaillez dans un milieu où vous n'êtes pas aimé, vous sentez très bien que progressivement, vous n'avez plus confiance en vous. Dès que vous faites quelque chose de bien, tout de suite, par jalousie ou par opposition, et donc l'angoisse commence à naître. Mais le milieu dans lequel vous êtes augmente, le milieu intérieur. Bien voir, mais en même temps, voyez la limite. absolument pas de la finalité. On constate un état. On ne cherche pas d'où ça vient, on constate. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que je crois que c'est une constatation qui est vraie. Je vous laisse un quart d'heure de silence à vous tâter le pouls. Écrivez, quel est le degré de votre angoisse? Quel est le degré de votre sécurité? Et ainsi de suite. Et on pourrait faire, on verrait comme ça. Là. On verrait, ça aiderait beaucoup pour le groupe de cet après-midi, n'est-ce pas? Alors on mettrait tous les angoissés. Il y aurait le taux d'angoisse. Premier groupe, et ainsi de suite, vous voyez. Et il dit, non, on ne va pas faire ça. On gardera, au contraire, tout simplement, ceux qui savent où ils en sont. Or, ce n'est pas les plus avancés qui sont les moins angoissés. C'est quelquefois les piou-piou qui sont les moins angoissés. Ils sont tout à fait derniers. Ils sont contents d'eux-mêmes, ça va bien. On a plutôt envie de leur marcher sur les pieds avant de s'avancer. Tandis qu'au contraire, quelqu'un de très, très avancé. Ah, des angoisses terribles. Non, je peux pas. Mais oui, tu as déjà fait ça. Oui, tu as déjà fait ça. C'est le passé qui redonne la sécurité. C'est pas le futur. Tu as déjà fait ça. Mais quelqu'un, dans la valorisation, il a dit, je me suis conduit comme un imbécile pendant toute cette période. Alors, il ne faut pas lui rappeler tout le temps. Il a montré, mais il y a quelque chose au contraire. Vous voyez, ça c'est très important pour le dialogue, c'est sûr. On est tous un peu infirmiers les uns des autres. Aujourd'hui, je suis infirmier de sol, demain, c'est lui qui sera, et ainsi de suite. Et on doit connaître ça. Bon, ça c'est la... Je crois que c'est très simple et que c'est quelque chose qui montre une vérité profonde. Mais je ne m'y arrête pas. Je vais simplement le signaler pour montrer qu'il y a là quelque chose d'important. Au point de vue philosophique, je cite Maritain, Jacques Maritain, a essayé de préciser ce qu'est la personne humaine. Ça a été un de ses grands soucis. Mais Maritain, pour essayer de préciser ce qu'est la personne humaine, a voulu distinguer personne et individu. En considérant que la personne et individu, il se place en philosophe, hein, Maritain, au-delà de la psychologie, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la personne. Alors on regarde la personne qui est celle qui est au-delà de tout le conditionnement, surtout politique. Parce que Mounier a influencé Maritain et en même temps Mounier a cherché aussi ce que c'est que la personne, d'un point de vue beaucoup plus politique. Mais là on voit l'influence politique sur la recherche de la personne de Mounier sur Maritain, de sorte que Maritain dira, la personne, elle est au-delà de la communauté politique. Tandis que l'individu, c'est celui qui est dans la communauté politique. Il ne faut pas oublier que Maritain réfléchissait là-dessus, un peu comme Mounier, au moment où on voyait des régimes totalitaires. Oui, et ces régimes totalitaires, ou de droite ou de gauche, ces régimes totalitaires prenaient tout l'homme. tu sais, attends, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste parce que, de fait, l'homme a en lui quelque chose qui est au-delà du point de vue politique. Alors, est-ce que c'est au-delà du point de vue politique par où il échappe à la tyrannie? Est-ce que c'est pas ça la personne? Vous voyez donc, conception de la personne très fort liée à l'esprit. C'est parce qu'il y a l'esprit en nous. Et là, on pourrait dire, vous voyez, il y a un vieux reste français chez Maritain avec Descartes. La conscience que j'ai l'esprit. Et mon esprit me rend autonome par rapport à l'État. Et c'est vrai. J'ai en moi l'esprit. Et l'esprit me permet de m'orienter ma vocation personnelle. La vocation est personnelle. Ma vocation humaine est personnelle. Et ma vocation personnelle dépasse toutes les conceptions que peuvent avoir l'État. Tandis que l'individu, c'est le point de vue du corps. Et l'individu, je suis dans ce tout que représente le bien commun de l'État. C'est un tout. Oui, il y a quelque chose de juste. Mais je crois que ce n'est pas suffisamment creusé au plan philosophique. Parce que qu'est-ce qui me permet de découvrir mon autonomie par rapport à l'État? C'est bien l'esprit, c'est sûr. J'en vois quelque chose de spirituel qui échappe au pouvoir politique, qui est au-delà du pouvoir politique. Mais il faut comprendre que c'est l'esprit qui est finalisé. Et qui recherche la vérité. Je ne vais pas demander à l'État ce qu'est la vérité sur moi. Quelle est ma finalité? D'autre part, dire que le corps est un individu parti du tout, alors la procréation, elle relève de mon corps, et aussi de mon esprit, mais de mon corps. Alors, je dirais que l'État a le droit de faire un planning familial et de dire que vous n'aurez qu'un enfant. C'est ce qui se passe en Chine. Est-ce que l'État a le droit de limiter les naissances? Peut-être donner un conseil. Les sages de l'État peuvent donner des conseils, mais pas un ordre impératif, à pas gouverner là-dessus. Alors vous voyez, on ne précise pas cela alors que c'est quand même un des gros problèmes. Entre personne et individu, pouvons-nous faire ce partage? Non. Parce que ma personne est individuée. Mon individu que je suis, ma singularité que je suis, fait partie de ma personne. Je ne dirais pas du tout que c'est uniquement mon corps. Mais non, je suis individué dans tout ce que je suis. Et j'ai cette marque particulière. Vous voyez, c'est vrai que le corps ne me donne pas toute ma finalité, mais il joue un conditionnement. De sorte que cette distinction que fait Maritain peut être intéressante, mais je crois qu'elle n'est pas suffisamment précise. Parce que il faut découvrir comment se fait ma personne par ma finalité. C'est ça qui manque à cette distinction. Maritain l'a reprise plusieurs fois, je ne veux pas regarder là l'évolution de la pensée de Maritain, mais parce qu'on l'a beaucoup attaqué. Vous voyez, je savais que Maritain avait très bien connu, et qui connaissait à ce moment-là, puisqu'il vivait encore, mon vieil oncle père de haut, Dominica. Et alors j'ai dit ça à mon vieil oncle, comme ça. J'ai dit, mais cette distinction entre personne et individu, elle n'est pas juste. Alors, le père de haut a éclaté de rire en me disant, mais c'est moi qui lui ai dit de creuser ça. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. Lui, oui, mais est-ce que c'est exact? Alors j'ai fait ce petit raisonnement. Puisqu'il en était la source. Elle dit, c'est vrai, c'est pas juste. En gros, voyez, ça semble juste. Mais ce n'est pas juste. Thomas d'Aquin a une phrase à la suite d'Aristote. Il dit, homo, ut homo, es pars civitatis. Je traduis, l'homme en tant qu'homme fait partie de la cité. Si je suis un citoyen, je le suis grâce à ma personne. C'est bien évident. Quand vous votez, vous faites un acte personnel, sauf si vous votez pour de l'argent. C'est encore un acte personnel, mais qui n'est pas digne de la personne. Et je suis citoyen, mais dans ma personne. C'est pas mon individu. Mon individu aussi, mais c'est ma personne. Un animal a une individualité. Quand vous faites les concours de cochons, chaque cochon a son individualité. C'est évident, on n'est qu'à le regarder. Alors, il ronronnait aux côtés de lui. Il vous regardera comme si c'était un petit copain à côté. N'est-ce pas ? C'est un individu, mais ce n'est pas une personne. Chaque animal est individualisé. Chaque feuille est individualisée, ce n'est pas une personne. Donc, comprenons bien qu'il faut bien distinguer les deux. C'est sûr, l'individu est autre chose que la personne. Mais la personne, chez l'homme, assume l'individualité. Je sais très bien que mon individualité s'enracine dans mon corps, dans le patrimoine génétique. Il s'enracine dans mon patrimoine génétique. Mais il doit être assumé par ma personne. De sorte que je crois que je ne puis pas m'arrêter à ça. Ça m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans tous ces philosophes modernes, il y a une recherche de la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne, comme point de vue psychologique? Alors, essayons maintenant de voir comment nous allons nous chercher ce qu'est la personne. Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je crois que c'est comme cela que nous devons faire. Il y a en nous deux grands aspects de développement de la philosophie. Il y a l'aspect pratique qui conduit à une anthropologie. Et il y a un aspect plus philosophique, spéculatif, qui conduit à la métaphysique. Et je crois que c'est très important de distinguer les deux. Je sais très bien que la pensée moderne, hegelienne, ne fait pas de distinction entre le pratique et le spéculatif. C'est la pensée dialectique. La dialectique est au niveau pratique, au niveau spéculatif. Mais un mathématicien, un savant, qui est un vrai savant, sait très bien que dans sa vie, il doit appliquer la prudence. Et que la prudence n'est pas sa science. Il y a des matheux qui sont des génies mathématiques et qui sont d'une imprudence folle quand ils sont au volant parce qu'ils sont dans leurs mathématiques. C'est tous les jours, ça. Cette différence entre ce que représente notre vie pratique, commandée par la prudence, notre vie spéculative, commandée par la sagesse, et notre vie artistique, commandée par l'art. Au fond, dans l'homme, il y a ces trois dimensions que je peux tout de suite découvrir. La dimension de celui qui cherche la vérité et qui veut la chercher jusqu'au bout. C'est l'aspect spéculatif. Il cherche la vérité. Et toute vérité. L'aspect pratique, c'est celui qui organise sa vie en sachant les limites qu'il a et en étant suffisamment prudent pour pouvoir mettre toute sa force dans ce qu'il y a en lui d'essentiel. Et puis il y a l'artiste, plus ou moins développé, mais il y a l'artiste. Quelquefois l'artiste c'est celui qui a simplement un violon d'ingres. Quand il est fatigué, il fait son potager. Ça existe des gens comme ça. Et ça le repose de faire son potager. Il est artiste en faisant son potager, s'il le fait bien. Il y a un art pour faire pousser du blé. Les oignons d'Égypte, il faut un art. Ça, il y a un art pour faire pousser les tulipes. Et ainsi de suite. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes un peu artistes. Mais on ne le développe pas beaucoup, mais on peut le développer. Puis il y en a qui sont vraiment très artistes. Il y a des poètes. Ils sont bien que quand ils écrivent leur poésie. Alors là, c'est merveilleux. Ça, ça se développe. Il y a des poètes. Il y a des comédiens. Ils ont leur vie austère. Et puis, il rêve à jouer la comédie. Et c'est très curieux, ça. Parce qu'au fond, de fait, il y a trois situations de l'homme. L'homme cherche la vérité absolue. L'homme vit en communauté. L'homme vit dans un monde. Les trois dimensions. Et ces trois dimensions relèvent de l'homme dans son développement. Je peux me vouer, me consacrer à la recherche de la vérité. Je peux vivre en communauté. La famille, la communauté de travail, la communauté politique, en communauté. Et je peux transformer ma petite cabane. Je peux transformer le sol où je suis. Je peux transformer, pour moi, l'univers, mon univers. C'est l'artiste. Je crois que c'est très important de voir tout de suite ces trois dimensions pour comprendre que le développement de la philosophie se fait selon ces trois dimensions. Parce que si je fais de la philosophie, c'est pour mieux connaître l'homme. C'est pour mieux savoir ce qu'est ma personne humaine. C'est pour me développer et aider les autres à se développer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Parce que ça va disparaître.